Dans les textes bibliques, il est question d'un peuple et de son Dieu. Le peuple est infidèle, il oublie son Dieu, il le redoute et parfois il le fuit. Dieu, lui, est fidèle et sans cesse, il renouvelle son alliance avec une humanité toujours tentée de se passer de lui. Alors au fond, ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'homme et qu'est-ce qu'ils nous disent de Dieu ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans le quatrième épisode de cette série de podcasts « À la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole ». Et nous retrouvons le père Sylvain Gasser, qui est religieux assomptionniste à Paris.
Dans la Bible, il y a un livre qui pose crûment toutes ces questions, c'est le livre des psaumes. Dans les psaumes, vous avez une humanité qui se révèle et se livre avec tout ce qu'elle porte en elle de paradoxes. C'est important ça, le paradoxe, parce que ça dit bien l'étrangeté que nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Cette part inconnue qui résiste en nous, qui suis-je ? Elle dit tout l'état de nos émotions, nos cris de louange, nos cris de détresse, nos doutes, nos exaltations. Quelqu'un avait dit que les mots des psaumes sont la chair chaude de l'homme, et je le crois beaucoup. C'est-à-dire que au-delà du kaléidoscope des sentiments humains qui sont exprimés dans les psaumes, il y a toujours les questions, mais où est-il ton Dieu ? Ça, c'est la question qu'on renvoie au psalmiste. Là, ton Dieu que tu vénères, il est où, toi, qui souffres ? Donc, une question que le monde me lance aussi, parce que, et du fond de l'abîme, Seigneur, je crie vers toi, réponds à mon appel. Quand ma serf altérée cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toujours une recherche. Toujours un chemin qui s'ouvre, toujours un désir qui est mis en avant. C'est cela notre humanité. Et le plus beau psaume qui raconte cette histoire de l'humanité, c'est le psaume 138 qui pose en avant la place de l'homme qui essaie de chercher son Dieu. Y a-t-il un lieu où Dieu ne serait pas ? Que je sois au sommet des montagnes, au fond des abîmes, à l'est, à l'orient, enfin, ou à l'occident, où que je sois, tu es là, mon Dieu. Alors, ce n'est pas un Dieu qui sera oppressant. Je cherche un endroit où tu ne serais pas, et je vois que tu es au-delà de moi. Ce que saint Augustin dira de manière très puissante, Dieu plus intime à moi-même que ma propre intimité, c'est-à-dire que j'ai beau me connaître, Dieu ne cesse de m'ouvrir encore une part d'abîme et une part de ciel qui me permet de scruter cette part d'inhumanité qui règne dans mon humanité, et aussi cette capacité que j'ai à m'élever vers ce que j'appellerais rapidement ce Dieu.
Alors, je disais que tout y est, et on n'est pas loin de la vérité, c'est-à-dire que dans la Bible, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la trahison, il y a du fratricide, du parricide, de la séduction, de l'amour, des miracles.
Il y a l'homme qui se cherche et se révèle ainsi. Alors, est-ce qu'on a dit tout de l'homme ? Je ne sais pas. Mais cette question de la totalité m'embête toujours. Il y a l'homme tel qu'il se révèle, tel qu'il se dénude dans les textes, ça c'est vrai. Et il y a cette part inconnue qui est en l'homme et qui fait que je continue de chercher à savoir qui je suis. Alors si ce n'est pas moi, c'est aussi mes confrères, les autres, mon frère, celui dont je suis appelé par le Christ à me faire le prochain. Donc parce que je ne suis pas seul dans ce monde, il y a l'autre, cette altérité qui est mise à mal aujourd'hui, je pense, dans notre société, en tout cas française, qui ne sait plus dialoguer, on le voit au niveau politique, on le voit au niveau social, c'est très compliqué cela. Donc il faut réactiver un peu ce sens profond de l'autre. J'observe très souvent que l'homme est cette part négligeable de l'humanité. Et ça me pose un vrai problème, parce que là, l'autre n'est plus qu'un objet, n'est plus qu'une pierre, il n'a plus de vie. Ça a été tout le problème de la solution finale des nazis en 1942. Et on le voyait, d'un coup, le juif n'était plus rien. Donc quand il n'est plus rien, vous faites ce que vous voulez. Mais enfin, pour en arriver là, c'est évidemment plus que tragique, c'est absolument immonde. Mais
moi, c'est déshumanisation.
Oui, c'est la déshumanisation complète, c'est tout à fait ça. Et cette déshumanisation, c'est déjà le retour au chaos, au tohu-bohu des origines, c'est-à-dire ce vide désert, tohu-bohu, le vide désert des origines. Et Dieu ne cesse, à travers les écrits qui nous sont donnés, de veiller à ce que cette humanité qu'il a créée ne retombe pas au chaos des origines.
Alors vous amenez ma question suivante, c'est-à-dire... qu'est-ce que la Bible, cette fois, nous dit de Dieu ?
Ben que c'est un Dieu qui nous a créés, qui n'abandonne pas sa créature, et pour cela, qui fera alliance avec elle, qui finalement vivra douloureusement les mésalliances permanentes des hommes, et qui ne cessera de renouveler les alliances. En fait, le ciel de Dieu, c'est un ciel de mille et un arc-en-ciel, c'est-à-dire de mille et une alliances qui ne cessent de se faire, jusqu'au moment, et ça c'est le moment fort, c'est Isaïe, notamment au chapitre 53, où finalement Dieu dira « Mais j'enverrai mon propre fils, mon envoyé, le mien, je l'enverrai, mais de toute façon, quand il sera parmi vous, quoi qu'il arrive, vous ne le reconnaîtrez pas, car il n'aura plus figure humaine, tellement il sera méprisé, torturé, humilié. Donc moi, ça me pose une grave question. La grave question, c'est que quoi qu'il arrive, le Messie aura beau être là devant moi, je ne le reconnaîtrai pas.
C'est peine perdue tout ça.
On pourrait le dire, mais parce que c'est peine perdue, et parce que je suis maître de ma propre vie, que je reçois, mais j'en suis maître, j'en suis responsable, je suis maître de mon intelligence qui m'a été donnée pour que je cherche, je n'abandonnerai pas. Malgré tout, et ce malgré tout pour moi c'est une formule très importante pour qualifier notre foi, malgré tout, je vais scruter les Écritures, je vais essayer de comprendre qui je suis devant mon Dieu, et c'est de savoir ce que Dieu veut pour moi, quelle est sa volonté. Quel est son dessein pour moi? C'est la vraie question que je ne cesserai de poser. Et donc, je ne sais pas si j'ai la réponse. Et je ne sais même pas si je veux la réponse. Je veux simplement que cette question qui me balance me pousse, me dynamise, me fait avancer. Et c'est parce qu'à un moment donné, je serai mû d'une compassion profonde pour quelqu'un qui souffre dans la rue, je ferai quelque chose pour lui. Ou je ne ferai pas, c'est ma liberté. Ou je ne ferai pas. Et finalement, on dit souvent que Dieu... Enfin, j'entends souvent, pardon, que Dieu... nous a créés libres, que cette liberté est la cause de notre mal. Alors ça, c'est absolument débile, parce que si Dieu me crée libre, c'est pas pour que je sois le suppôt du mal. C'est pas ça. Dieu a créé ce monde bon, et dans ce monde, il y a la présence énigmatique du mal, et puisque c'est une énigme, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu fera tout pour combattre ce mal hors de sa création. Et ma liberté consiste à dire si j'entre dans le projet de Dieu de combattre avec lui le mal ou pas. Ma liberté, c'est que je peux dire « Ok, Seigneur, je vais t'aider pour combattre le mal que je vois autour de moi. » Au contraire, en fait, ce n'est pas mon problème. Elle est là, ma liberté. Je ne suis pas l'auteur ou l'origine du mal.
C'est ce que raconte la Bible, en fait?
La Bible, elle va montrer effectivement toutes nos bassesses, nos turpitudes, nos mésalliances, nos hypocrisies. Elle raconte cela. Si vous prenez un peu... Tout ce dont l'homme est capable, en fait, c'est les deux. Enfin, le passif comme ça est plus fort que le bénéfice. C'est-à-dire, voilà, l'homme est capable, comme vous l'avez dit avant, des pires meurtres, des pires méchancetés du monde. Il est aussi capable du meilleur, mais
oui,
les
même.
Récits forts sont plutôt des récits de rupture, des récits de mésalliance, des récits de guerre. Parce que c'est cela qui se raconte souvent le plus facilement, c'est vrai.
Mais c'est un livre sur la fidélité quand même. C'est un livre qui dit la fidélité de Dieu.
Oui, ça c'est très clair. Dieu ne cesse, puisqu'il renouvelle en permanence ses alliances, il ne cesse de manifester en permanence son souci d'être fidèle avec la créature qu'il a suscitée. Ça oui, ça c'est ce qui est écrit, c'est la puissance de ces récits. Dieu ne cesse d'être toujours présent à son peuple. Alors il y a des jours où je le reconnais, alléluia, et puis mon Dieu est l'unique, et je suis très content de l'avoir. Il y a des jours où je ne veux pas le voir. Pour X raisons, je ne veux pas le voir. Je veux pas que... Alors que c'est le mauvais œil de Caïn, c'est ce Dieu qui juge, ce Dieu juge puissant qu'on ne veut pas voir. Parce que je pense que ce n'est pas cela qui... Enfin, on le dit, le Dieu juge. Mais petit à petit, il y a une évolution de l'image de Dieu que l'on a jusqu'à ce Dieu miséricordieux. Souvent des gens, et les chrétiens donc, disent « Mais de toute façon, notre Dieu, c'est le Dieu amour contre le Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu juge. » Non, 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 ce n'est pas vrai. Le Dieu amour dans l'Ancien Testament, je le trouve, effectivement. Et plus d'une fois, il y a ce Dieu compatissant, ce Dieu qui n'abandonne pas son peuple, qui relève l'enfant. Enfin, on le voit quand Agar, cette femme chassée par Sarah, la femme d'Abraham, avec son fils Ismaël, Dieu est plein de compassion pour cette femme qui souffre le martyre et qui offre au désert, donc à la mort, son propre fils. Donc on a un Dieu infiniment compatissant et miséricordieux. Donc moi, c'est un peu ces idées reçues qu'il faut combattre. Les écrits du Nouveau Testament parachèvent tout ce qui avait été annoncé et qui attendait son accomplissement dans les Écritures. Ça, c'est évident.
On dit que l'homme cherche Dieu.
Oui.
La réciproque est vraie?
C'est une bonne question. Et un juif serait tout à fait à l'aise pour dire « Oui, Dieu cherche l'homme. Où est-il ?» On dit dans les psaumes « Où est-il ton Dieu ? Où est-il l'homme que j'ai créé ? Il le cherche. Où es-tu, Adam ? Question, qu'as-tu fait ? Où es-tu ? » Alors oui, Dieu peut tout savoir, mais il pose la question. Parce que je vous dis, notre religion est une religion de la question plus que de la réponse. Et on le voit bien. Qu'as-tu fait ? Où es-tu ? Il le sait. Mais il attend qu'on prenne notre responsabilité d'humain. Dire, ben voilà, j'ai fait ça. Ce que Cain, Adam ne répondra pas comme cela, et Cain non plus d'ailleurs. Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas chargé de surveiller mon frère, mais qu'as-tu fait? Et là, les yeux s'ouvrent à ce moment-là. Et c'est cela, en fait. Dieu nous pose des questions sans nous juger, même si à un moment donné, il prend la décision. Il dit aussi, ça, tu ne le feras pas. Il y a dans le livre des Nombres, mais je suis sûr que je ne me trompe pas, quand Dieu dit, tu as le choix entre la vie et la mort, mais tu choisis la vie. Il y a quelque chose de paradoxal, si j'ai le choix, je peux choisir.
Deutéronome,
oui. Et donc, c'est bien, tu choisiras. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il fera tout pour que la vie soit respectée. La vie appartient à Dieu, il nous la donne comme un don propre. Mais cette vie-là, nous devons l'honorer. Rien ne peut la détruire. Et ça, il faut sans cesse le redire. Parce que finalement, la destruction autant de la vie qui nous est donnée et du monde qui nous est donné, tout peut s'écrouler. Je pense que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, une conscience accrue et très aiguë de la vulnérabilité du cosmos, de notre Terre et de notre humanité.
C'est la fin de ce 4e épisode. Je vous donne rendez-vous dans le 5e et dernier épisode de cette série de podcasts où nous essaierons de comprendre pourquoi la Bible nous intéresse encore aujourd'hui, pourquoi elle continue de susciter de l'intérêt, du questionnement et de la curiosité. Alors à très vite !